Merci d'écouter RFI. Il est 3h à Tel Aviv, une demi-heure de plus à Téhéran.
Mathis Limano.
Les Israéliens autorisés à quitter les abris après une deuxième salve de missiles iraniens. Depuis quelques heures, Téhéran mène des dizaines de frappes en représailles à l'attaque israélienne d'hier. Des sites nucléaires touchés, des hauts dignitaires de l'armée iranienne neutralisés. Des frappes qui semblent se poursuivre malgré les appels à la désescalade. L'agence d'État iranienne rapporte il y a une demi-heure une forte explosion aux abords d'un aéroport de la capitale. Un conseil de sécurité des Nations Unies se tient en ce moment. L'Iran a accusé les États-Unis d'être complices de l'attaque israélienne, accusation démentie par Washington, qui a estimé qu'il serait plus sage de reprendre la voie de la négociation sur le programme nucléaire iranien. Et puis, clap de fin du sommet sur l'océan à Nice. Pendant une semaine, les délégués de 153 pays se sont réunis. Il en est sorti un accord prometteur sur la protection de la haute mer. La riposte de l'Iran n'aura donc pas tardé. D'abord verbale pour le guide suprême iranien. Le régime sioniste a commis une faute impardonnable. Tout au long de la journée d'hier, environ 200 avions israéliens ont visé une centaine de cibles en Iran, dont des sites nucléaires. Le bilan humain est de 78 morts, dont des hauts responsables de l'armée iranienne. Et puis dans la soirée, la réplique. Une première salve de missiles s'est abattue sur Israël, visant d'après Téhéran des sites militaires dans la région de Tel Aviv. Les secours font état d'une quarantaine de blessés. Puis une deuxième salve poussant de nouveau les habitants à rejoindre les abris. Ils sont à présent appelés à rester à proximité. Écoutez le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou après cette réplique de l'Iran.
Ce soir, je souhaite m'adresser à vous, le fier peuple d'Iran. Nous sommes au cœur de l'une des plus grandes opérations militaires de l'histoire, l'opération Rising Lion. Le régime islamique qui vous opprime depuis près de 50 ans menace de détruire mon pays, l'État d'Israël. L'objectif de l'opération militaire israélienne est d'éliminer cette menace, à la fois la menace nucléaire et la menace des missiles balistiques qui pèsent sur Israël. En atteignant nos objectifs, nous vous ouvrons également la voie pour que vous puissiez atteindre votre objectif, à savoir la liberté. Au cours des dernières 24 heures, nous avons éliminé des commandants militaires de haut niveau, des scientifiques nucléaires chevronnés, la plus importante installation d'enrichissement du régime islamique et une grande partie de son arsenal de missiles balistiques. D'autres frappes sont en cours. Le moment est venu pour vous de vous unir autour de votre drapeau et de votre héritage historique en défendant votre liberté face à un régime malfaisant et oppressif. Peuple courageux d'Iran, votre lumière vaincra les ténèbres. Je suis avec vous. Le peuple d'Israël est avec vous.
Voilà le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou qui promet par ailleurs que le pire est à venir pour l'Iran. Les frappes qui semblent se poursuivre à cette heure, une épaisse fumée et des flammes s'échappent de l'aéroport Mehrabad de Téhéran. L'agence d'État rapporte une forte explosion aux environs. Le guide suprême iranien a lui aussi pris la parole, c'était dans la soirée. Ali Khamenei a pointé la responsabilité entière d'Israël et a estimé que les frappes étaient une déclaration de guerre.
Le point que je souhaite maintenant partager avec notre chère nation est le suivant. Le régime sioniste a commis une grave erreur, une énorme erreur de calcul, une faute flagrante. Et par la grâce de Dieu, ses conséquences le mèneront à la ruine. Israël ne doit pas s'imaginer qu'il a frappé et que c'est fini. Non, ils ont commencé, ils ont lancé une guerre. Nous ne leur permettrons pas de sortir indemne du crime majeur qu'ils ont commis. Nous devons agir avec force. Et si Dieu le veut, nous agirons avec force. Il n'y aura pas de compromis.
Et devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, l'Iran a accusé les États-Unis d'être complices des attaques d'Israël. Accusation démentie par Washington, qui a estimé qu'il serait plus sage de reprendre la voie de la négociation sur le programme nucléaire iranien. Le nucléaire, un intérêt vital pour Téhéran qui a été touché. La République islamique s'est donc sentie obligée de répliquer malgré les potentielles conséquences. Mais pour le chercheur spécialiste du Moyen-Orient, Sébastien Boussois, l'escalade nucléaire est encore très loin.
L'Iran est dans une situation extrêmement difficile. Là, en l'occurrence, la question du nucléaire est une question complexe dont on pourrait parler des heures. Si on part du principe que la dissuasion nucléaire doit permettre surtout de ne pas utiliser l'arme, et l'arme nucléaire permet évidemment de calmer tout le monde. Je pense que pour l'Iran, c'est une assurance vie. Je ne crois pas que la première obsession de l'Iran soit d'aller frapper Israël avec une arme nucléaire. Téhéran ne connaît que trop les conséquences. Son régime est fragile. Le régime des Mollahs les gardiens sont aussi dans une situation compliquée à l'égard de l'extérieur, mais également en interne. Donc je crois que la priorité de Khamenei, c'est de maintenir son régime. Et toute offensive aujourd'hui dans cette situation de faiblesse est compliquée pour le régime iranien, surtout qu'Israël a frappé au bon moment, au moment où l'Iran est faible et au moment où l'AIEA avait clairement démontré que Téhéran était sur le point d'atteindre ce fameux seuil d'enrichissement nucléaire qui lui permettait de fabriquer, au moins pour commencer, deux têtes d'ogive nucléaire.
Sébastien Boussois, spécialiste du Moyen-Orient, invité de la spéciale de RFI.
RFI, la radio du monde.
Suite et fin du sommet des Nations Unies sur l'océan à Nice, dans le sud de la France. Pendant une semaine, 12 000 délégués venus de 153 pays se sont réunis pour tenter de mieux protéger les océans. Et il y a eu des avancées, la principale étant la prochaine entrée en vigueur du traité sur la haute mer. Cet accord vise à mieux protéger les eaux internationales. 60 pays doivent le ratifier pour qu'il entre en vigueur. Ce cap des 60 était érigé en priorité par la France. Pour le moment, il en manque 10, mais suffisamment de pays ont promis de prochainement le ratifier. François Chartillet, en charge des océans à Greenpeace, s'en réjouit, même si pour lui, le bilan final du sommet est plutôt mitigé.
D'une part, des avancées sur la scène internationale, essentiellement, on a vu cette mobilisation pour le traité sur la haute mer, on a vu qu'on n'est pas loin de la ratification. Alors, contrairement à ce qu'espérait le président Macron, la ratification ne sera pas conclue, finalisée, pendant cette conférence, mais on peut dire aujourd'hui que le traité sera ratifié dans l'année, et surtout ça veut dire qu'il y aura une COP l'année prochaine et qu'on pourra enfin passer aux choses sérieuses, j'ai envie de dire, c'est-à-dire mettre en place des aires marines protégées en haute mer. Et donc pour ça, pour nous, c'est une véritable avancée. Et peut-être le côté négatif, et c'est là où on peut dire qu'on est déçu, c'est ce sujet de la protection des eaux en France. On a attendu des annonces et puis finalement, rien de vraiment nouveau. Et la France reste toujours arc-boutée sur ce sujet, en contradiction avec les recommandations internationales, les avis des scientifiques et de la mobilisation de la société civile.
Et malgré une participation record, donc avec 64 chefs d'État, le sommet a toutefois échoué à lever les fonds attendus, 100 milliards de dollars pour les pays pauvres, et a fait l'impasse notamment sur la question centrale des énergies fossiles. Les premiers Marines envoyés par Donald Trump sont arrivés à Los Angeles. Environ 200 membres de ces troupes d'élite ont commencé leurs opérations à la veille d'une journée de manifestation qui s'annonce massive contre la politique migratoire de Donald Trump à travers tout le pays. Depuis plusieurs jours, de violents affrontements ont lieu entre les forces de l'ordre et les manifestants opposés aux raids anti-migrants. Ce nouveau bilan effroyable en Haïti, au moins 2680 personnes ont été tuées dans les violences depuis le début de l'année, d'après le Haut Commissaire aux droits de l'homme de l'ONU. 316 personnes ont, elles, été enlevées contre rançon. Haïti continue de subir la violence des gangs armés qui contrôlent de larges secteurs du pays. Et puis, Meta serait prêt à investir 14 milliards de dollars dans la start-up Scale AI. Cette entreprise est spécialisée dans le traitement de données nécessaires au bon fonctionnement de l'intelligence artificielle. Agnieszka Kumor, ce serait derrière le rachat de WhatsApp le deuxième plus gros investissement.
Le montant de l'opération n'a pas été dévoilé, mais le Wall Street Journal estime la participation de Meta à 49%. Pour y parvenir, le groupe de Mark Zuckerberg devrait débourser 14 milliards de dollars. Fondé en 2016, Scale AI fournit des données aux entreprises spécialisées dans l'intelligence artificielle et vérifie les réponses des modèles manuellement via des milliers de prestataires dans les pays en développement. Meta était déjà entré au capital de la jeune pousse de San Francisco l'an dernier, comme Amazon, Intel ou le champion de puces IA Nvidia. La présente opération vise à relancer la maison mère de Facebook dans l'intelligence artificielle après un relatif échec de son modèle IA Llama 4. Tout comme Meta, Scale AI travaille entre autres pour le Pentagone. Les deux sociétés ont conçu un modèle dédié aux recherches dans les documents classifiés. Meta développe par ailleurs les casques connectés pour l'armée et Scale AI a décroché un contrat pour les véhicules de combat robotiques.
Agnieszka Kumor pour refermer cette édition. Il est 2h10 à Paris, 2h de moins en temps universel.